Alors, pour nous aider à démystifier justement ce qu'est le syndrome d'alcoolisme fœtal, on reçoit le docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre au CHU Sainte-Justine. Bonjour, docteur Chicoine.
Bonjour à vous.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
J'imagine qu'on est occupé?
Oui, c'est une époque désagréable, mais très intéressante.
C'est un très bon résumé. Donc, oui, on a fait appel à vous pour en apprendre davantage. D'abord, pouvez-vous nous expliquer en gros en quoi ça consiste, là, le syndrome d'alcoolisme fœtal?
Oh, ça consiste à plusieurs choses. En fait, c'est un spectre. Vos auditeurs ont peut-être déjà certainement entendu parler de l'autisme.
Oui.
Où il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Avec l'alcoolisme fœtal, c'est la même chose. Ça a commencé à être décrit à la fin des années 40-50 en France. Et puis ensuite, bon, les publications se sont enchaînées. Ça n'a jamais été déchaîné. C'est toujours une maladie qui a été mise un petit peu de côté. Probablement parce que ben, c'est sûr que ça précipitait beaucoup de parents, de mamans dans la honte à partir du moment où on peut faire un lien entre l'anomalie congénitale constaté chez l'enfant, et puis ben, le fait qu'ils aient pris de l'alcool pendant la grossesse. Alors, l'alcoolisme fœtal, quand on parle du syndrome d'alcoolisme fœtal, le cas le plus typique, c'est un enfant qui naît en général petit, avec aussi une petite tête, une petite taille, qui a quelques petites anomalies physiques associées. Parfois, ça peut être même une fente labiopalatine, une maladie au cœur, quelque chose de particulier à... aux os, aux reins aussi, mais c'est aussi un enfant qui a dans son visage des stigmates là, qu'on peut reconnaître. En général, les principaux, je vous dirais, c'est le vermillon, donc la lèvre supérieure qui est très, très effilée, très mince. En fait, on pourrait pas mettre de rouge aux lèvres dessus. Ensuite, un effacement de la ligne qui va du nez à la lèvre supérieure, qu'on appelle le philtrum. Alors, c'est comme si la lèvre supérieure s'avançait en avant. Ça donne l'impression d'un petit bec. Le menton est en général petit aussi. Et les yeux sont petits, les oreilles sont basses implantées. C'est des enfants qui se reconnaissent assez facilement quand on a l'habitude d'en voir. Et puis, à la limite, on pourrait ne pas reconnaître, en fait, cette anomalie-là. Surtout, ça donne des retards développementaux importants. Donc, on pense que c'est des enfants qui ont vraiment un déficit intellectuel, mais en fait, il y a juste le quart qui va avoir un bon déficit intellectuel. Les autres vont avoir une intelligence basse, lente, donc avec tout ce qui vient avec. Donc, beaucoup, beaucoup de problèmes spatiaux au niveau moteur. Des retards orthophoniques, etc. C'est des enfants qui sont assez, assez mous, mollassons, sympathiques, qui se font faire mal à 5, 6, 7 ans par les autres enfants. Ils ne sont pas agressifs comme d'autres enfants qui auraient une autre anomalie ou qui viendraient d'une forme de maltraitance. C'est alors assez particulier de voir à quel point on remarque pas tant que ça ces éléments-là chez eux. Sinon, des dérégulations fréquentes, ces enfants qui ont de la difficulté à s'adapter à des situations plus que d'autres enfants. Mais surtout vers 8, 9, 10 ans, là, la courbe commence à ne pas être favorable pour eux, ces enfants qui ne rentrent pas dans l'abstraction, dans la métaphore, dans les hypothèses et tout. Donc, ils ont une intelligence qui demeure très, très concrète, très proche de ce qu'ils voient. S'ils ne le voient pas, ils ont de la difficulté à l'imaginer. Donc, ils deviennent très dépendants à 10, 12, 13, 14, 15 ans de leurs tuteurs parentaux. Et l'évolution est malheureusement difficile parce qu'ils répondent peu et à la médication. Parfois, ils ont un TDAH, parfois, ils ont de l'autisme aussi. Mais surtout, ils répondent mal à l'excellente psychoéducation. Ils apprennent pas des choses. Les leçons de choses ne leur rentrent pas dans la tête, ce qui fait que, bon, ils se mettent toujours dans des situations difficiles au niveau des comportements sexuels, au niveau des rapports avec l'autre. Et puis, avec les années, ben, ils peuvent être beaucoup plus se retrouver sur des trajectoires de délinquance ou en prison et tout. C'est une maladie importante qui atteint facilement 3-4 000 nouveaux bébés par année au Québec. Donc, proportionnellement, c'est C'est vraiment deux fois plus fréquent que l'autisme dont on entend beaucoup parler. Et pourtant, ben, on n'en entend pas si parler que ça.
Peut-être, comme vous disiez plus tôt, parce qu'il y a un certain stigma associé à ça?
Oui, un stigma associé à ça. Il y a peu de solutions quand l'enfant demeure encore dans sa famille biologique, parce qu'il y a souvent des éléments de négligence autour qui viennent se rajouter. Puis il y a aussi d'autres éléments qui viennent se rajouter au diagnostic de négligence ou de maltraitance ou de traumatisme, ce qui fait que on accumule... On finit par se retrouver avec des enfants qui ont un traumatisme complexe, en fait, et qui est pas facile à prendre en charge. Et c'est souvent, c'est vraiment une des causes les plus fréquentes de placement en famille d'accueil et je dirais de travail aussi au quotidien pour les familles d'accueil. Parce qu'il est bien prouvé que si on intervient tôt, en orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie, en psychoéducation, on diminue les problématiques secondaires sans malheureusement les enrayer. C'est une des principales causes de maladies congénitales des enfants dans le monde. C'est une des principales causes d'abandon. C'est malheureusement déclenché pas nécessairement de l'alcoolisme chez une maman, mais parfois une, deux, trois petites beuveries ou parties de trop dans le premier trimestre peuvent donner l'alcoolisme fœtal. C'est très, très difficile pour les experts d'essayer de savoir combien d'alcool va arriver à donner le syndrome alcoolo-fœtal, comment l'alcool est métabolisé chez chacune des femmes. Donc, on préfère dire de ne pas prendre d'alcool pendant la grossesse. Évidemment, un petit verre de vin dans les derniers trois mois, ça n'a pas le même effet qu'une soirée avec trois, quatre bières ou, une bouteille de vin dans le premier trimestre de grossesse. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le binge drinking, donc les gros parties auxquels on n'a plus droit là, avec la COVID, là, qui amène cela. Et comme l'alcool a pénétré la jeunesse, dans les 10-20 dernières années. Malheureusement, ben, il y a des jeunes filles qui sont enceintes et qui ne s'aperçoivent pas et qui en plus, ne consommeraient pas si elles savaient qu'elles étaient enceintes à ce moment-là. Et c'est là un petit peu qu'on a perdu encore sur ce syndrome-là qui est pas facile à repérer pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et puis malheureusement, ben, il n'y a pas de services pour ça qui sont spécifiquement donnés. Par exemple, si moi, comme pédiatre, avec mon infirmière, ma travailleuse sociale, je veux avoir des services pour l'enfant, ben, il va falloir que je lui diagnostique tout ce qui vient avec son syndrome alcoolo-fœtal, que ce soit le TDAH, le TSA, le trouble adaptatif, pour avoir des services.
Parce que si c'est seulement le syndrome d'alcoolisme fœtal, on n'aura rien.
Non, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien.
Okay, parce
pour
que c'est...
avoir même les subventions pour parents d'enfants handicapés, etc., il faut que je décrive en fait toute l'accumulation de problématiques développementales ou psychiatriques ou des apprentissages pour avoir des services. Il n'y a pas personne qui va lever un drapeau rouge si j'écris syndrome alcoolo-fœtal. Alors ça, c'est la forme la plus fréquente. Et il y a aussi d'autres enfants qui n'ont pas de stigmate physique, mais qui ont toute l'imprégnation neurologique. Leur cerveau est vraiment comme un fromage. Fromage qui fonctionne bien, mais il y a des petits trous un peu partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets de l'alcool sur le fœtus. Et c'est souvent des enfants qui sont plus atteints neurologiquement. Ils ont des troubles d'attachement. Ils sont souvent un petit peu plus agressifs que les autres. Donc, moins ça paraît, plus c'est vicieux parfois. J'ai souvent vu cela, par exemple, chez des jumeaux qui m'avaient été référés. Donc, celui qui était le plus atteint fonctionnait dans sa déficience et était relativement facile à cadrer, tandis que celui qui avait moins de stigmates, qui avait une grandeur normale, qui n'avait pas les traits, avait vraiment des troubles d'attachement sévères, des problèmes d'empathie, des problèmes d'immoralité. C'est l'immoralité ou l'absence de jugement qui, avec les années, est le plus décrié par des parents qui réussissaient quand même à trouver le meilleur de ces enfants-là en petite enfance ou jusqu'à l'âge de 10-12 ans. C'est des enfants qui ont qui, malgré leur intelligence, n'ont tellement pas d'abstraction, de jugement, ça devient difficile de les mettre dans des groupes de leur âge, que ce soit à l'école ou même pour jouer.
Et j'imagine qu'en l'absence de stigmates physiques, il y a peut-être des diagnostics qui sont retardés et donc des interventions qui sont retardées?
Oh, je vous dirais que facilement, la moitié des syndromes alcoolo-fœtal au Québec ne sont pas diagnostiqués. Facilement.
Est-ce que c'est par manque de connaissances de la part des médecins, par exemple, si ils ne sont pas nés dans des hôpitaux spécialisés?
Ça prend beaucoup de... On m'a pas montré ça non plus comme pédiatre. C'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le tas. Et il faut en avoir vu beaucoup pour bien comprendre. La meilleure pour faire le diagnostic au Québec, c'est probablement mon infirmière qui est habituée d'en voir et qui en a reçu beaucoup. Mais nous, c'est sûr qu'on est une clinique spécialisée avec les enfants abandonnés, des familles d'accueil ou qui venaient de l'adoption internationale, notamment de Corée ou de Russie surtout. En Europe de l'Est, la problématique est extrêmement importante. Donc, aussi ceux qui travaillent auprès des Premières Nations ont souvent vu plus souvent cela, mais c'est un diagnostic qui donne le change pour beaucoup d'éléments. Puis au fond, qui est un peu décourageant, non seulement pour des parents qui n'auraient pas vu venir la chose, ou pour des familles d'accueil ou des parents adoptants, mais pour les soignants, parce que faut aller vraiment à la louche avec chacun des services, puisqu'il n'y a pas de prise en charge globale. Il y a eu quelques centres qui sont occupés de ça, mais c'est des enfants qui passent vraiment sous le radar. Il faut dire aussi que c'est souvent des enfants qui viennent de milieux extrêmement vulnérables. Donc, non seulement ils ont été arrosés d'alcool, mais ils ont eu droit à de la cigarette, à de la drogue, à une malnutrition, éventuellement à du bruit ou à du stress du côté de la maman enceinte. Et puis ensuite, parfois, des épisodes de négligence, de rupture dans des familles dysfonctionnelles. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments de stress et d'atteinte développementale chez les enfants qui font écran à ce diagnostic-là. Mais quand on a l'habitude, on comprend qu'on a affaire à cela. Moi, je le comprends beaucoup parce qu'ils répondent moins à certaines médications, comme je vous disais tantôt, mais surtout, d'excellents psychoéducateurs n'arrivent pas à leur faire retenir des meilleures façons de se comporter ou des stratégies pour être bien avec eux-mêmes. Et c'est vraiment ces éléments-là qui amènent à raffiner le diagnostic. Les évaluations neuropsychologiques, surtout à partir de 9, 10, 11, 12 ans, sont capables non pas de faire le diagnostic, mais de supporter beaucoup le diagnostic maintenant, en ce sens qu'ils sont capables de voir justement ces fonctions de mémoire, d'intelligence spatiale ou d'intelligence en général ou d'abstraction en friche chez ces enfants-là. Mais une évaluation neuropsychologique, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, beaucoup de familles ne peuvent pas se le permettre. Donc, il faut pouvoir rentrer ou dans une unité de santé mentale ou dans un programme quelconque pour pouvoir avoir droit à cette évaluation-là, ce qui précise un peu le diagnostic. Moi, je me bats beaucoup avec les services sociaux et tout pour avoir droit à ces évaluations-là. Parce que quand vous êtes dans le cirage depuis des années comme intervenant, puis vous dites, ah mon Dieu, il y a peut-être de l'alcool là-dedans, mais je connais même pas les conditions de grossesse de la mère biologique, vous demandez, vous cherchez cette évaluation-là pour un peu supporter votre diagnostic clinique et le comportement clinique aussi observé par le professeur, par le psychoéducateur. Moi, ça m'est très éclairant aussi pour voir vers où l'enfant se projette, parce que ça veut dire donc que si j'en suis là à 12-13 ans, puis s'il faut encore le surveiller, s'il y a encore besoin d'une permanence adulte, ben pour prendre l'autobus, pour pas agresser quelqu'un dans la cour d'école, mais ben ça me dit que ben entre 18 et 21 ans, ces enfants-là, il va falloir que j'aille chercher aussi beaucoup d'accompagnement pour eux. Et malheureusement, à 21 ans, ben je pourrais plus faire grand-chose.
Ça y est, plus de recours.
Pour plusieurs d'entre eux, mais clairement, dans les gens de la rue ou dans les prisons ou chez certains solitaires qui se laissent pas aider facilement, etc., il y a des jeunes adultes ou des adultes ou même des personnes plus âgées qui sont atteintes du syndrome alcoolo-fœtal et qui ont été jamais diagnostiquées dans leur vie, non?
Alors, tout ça démontre que ça gagne à être davantage connu et qu'il y ait plus de sensibilisation. Et c'est justement pourquoi, Dr Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour prendre la peine de décortiquer ça pour nous et de mieux nous le faire connaître.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup.